Première.
Pierre-Étienne Joie.
Le roi Charles s'est dit profondément choqué et attristé par le drame de Liverpool. 4 personnes, dont un enfant, sont toujours hospitalisées dans un état grave après qu'un automobiliste a foncé sur la foule hier soir. Les gens célébraient la victoire du club de foot britannique en première division anglaise. Il y a eu près de 50 blessés au total. Un cordon policier était toujours en place ce matin sur les lieux du drame. La police ne pense pas qu'il s'agit d'un acte terroriste. Les désastres naturels dans le monde coûtent de plus en plus cher. Selon un rapport de l'ONU, les pertes atteignent plus de 200 milliards de dollars par an et même près de 2300 milliards en considérant les effets indirects. Parmi le chiffre des pertes directes, 95% regroupe les séismes, les incendies, les inondations, les tempêtes et les sécheresses. Il y a une trentaine d'années encore, la facture n'arrivait encore qu'à un peu plus de 70 milliards par an. La Suisse sera présente à Hong Kong lors d'un forum pour la médiation organisée par la Chine. Le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis a été invité par son homologue Wang Yi à y présenter l'expertise suisse en matière de bons offices. Le conseiller fédéral assistera vendredi au forum qui rassemblera une soixantaine d'États. Les exportations horlogères ont progressé de 18% en avril, portées par les envois en hausse vers les États-Unis, plus 149%. Une explosion qui s'explique par les craintes autour des droits de douane américains. La Fédération de l'industrie horlogère suisse précise donc que ce pic d'exportation d'avril reflète davantage une réponse ponctuelle à un contexte commercial incertain, plutôt qu'un véritable signal de renforcement structurel de la demande. La conjoncture est au beau fixe pour le tourisme en Suisse. Le nombre de nuitées devrait atteindre 25 millions lors de l'été 2025, en hausse de 2% sur un an. Et les chiffres d'affaires de la branche suisse des voyages sont en hausse de 5% en Suisse romande par rapport à l'année précédente. Au top des destinations les plus demandées, la Méditerranée, en tête la Grèce, suivie de l'Espagne et de la Turquie. Le moustique tigre étend sa présence en Valais, plus particulièrement dans le Chablais. Après Colombey, Murat et Montet, l'insecte a été détecté pour la première fois à Massonger. Dans le canton, la présence du moustique tigre a été signalée pour la première fois en 2019 à Montet. Depuis lors, ces colonies se sont développées. On les retrouve également à Fuy. A contrario, ces individus n'ont plus été signalés depuis 2022 à Brigue. Le premier ministre japonais va recevoir de la terre des environs de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, un envoi pour démontrer symboliquement qu'elle ne représente plus aucun danger. Cette terre est stockée près de la centrale de Fukushima, dans le nord du Japon, frappée par un tsunami le 11 mars 2011. Les autorités souhaitent utiliser cette terre dans la construction de routes ou le façonnage de talus au niveau de voies ferrées. La météo, bien ensoleillée en pleine cet après-midi, en partie ensoleillée sur le Jura et dans les Alpes, mais seulement quelques éclaircies dans les Préalpes, 21 degrés. Demain mercredi, le matin, assez ensoleillé en Valais, autour du Léman et dans les Préalpes. L'après-midi, un ciel qui va devenir de plus en plus nuageux, avec l'arrivée de quelques précipitations à partir du nord-ouest, d'abord en Ajoie, puis dans les Préalpes, généralement sec sur le sud du Jura et l'ouest lémanique, en pleine, minimum 12 degrés le matin, maximum 18 au nord du plateau, ensuite 22 en Valais à Genève, des rafales de vent d'ouest probables sur le plateau en seconde partie de journée.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Voix cristalline ou puissante, voix qui caresse ou qui transperce. Du 4 au 19 juillet au Montreux Jazz Festival, laissez-vous séduire par les plus grandes voix d'artistes légendaires. Parmi les têtes d'affiche, Pulp, Ray, Lionel Richie, Isolt, ou encore Neil Young and the Chrome Hearts. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com. Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Drôle d'époque. Mélanie Crovalian, Simon Mathé-Doré.
Bastien Testori est toujours là fidèlement derrière la vitre pour réaliser cette émission en direct jusqu'à 17h. On poursuit le voyage avec notre invité du jour, Loubna Frey, qui a accompli avec ses deux camarades ce voyage, ce périple, cette épopée, cet exploit aussi sur le plan sportif que de traverser les Alpes, l'Alpine Quest. Arrivé le 23 avril dernier, après 54 jours de traversée, arrivé à Monaco, vous êtes parti de Vienne en Autriche. Alors on racontait quelques étapes de ce périple. Bah, il faut trouver des fonds, il faut trouver les sous, il faut trouver le temps. Combien de temps ce voyage que vous avez envisagé et imaginé, Loubna Frey, combien de temps de préparation cela vous a-t-il pris? Ça se compte en semaines, ça se compte en mois, peut-être en années?
Alors c'est vrai que ça faisait des années que ça mijotait. Mijotait en moi, que j'en avais parlé à Mélanie, aussi à Sophie.
Donc Mélanie Corté, Sophie Pelka.
C'est ça.
Important de donner les noms.
Exactement, je suis d'accord. Mais en fait, vraiment, quand j'ai passé la ligne d'arrivée le 22 septembre 2024 à Nice et que j'étais championne du monde d'Ironman de ma catégorie, là je me suis dit, Loubna, c'est ton go.
Ça c'est du triathlon, oui.
Voilà.
Et alors là, vous avez quelque chose qui, au niveau mental, s'est débloqué.
Je ne sais pas si ça s'est débloqué, je savais que j'avais envie de le faire un jour, mais là je me suis dit non, c'est maintenant, c'est cette saison, tu es en forme, il ne faut pas se leurrer, ça coûte aussi de l'argent, surtout si on est ambitieux dans le fait qu'on veut amener glaciologue, hydrologue, etc. sur le terrain, qu'on veut faire un documentaire, donc il fallait aussi lever des fonds, et je me suis dit c'est ton go, c'est maintenant, c'est cette année, il ne faut pas laisser à plus tard ce qu'on peut faire maintenant.
La vague est là, il faut la surfer maintenant.
Ah, vous parlez encore de vagues.
Mais oui, c'est ça, ça me reprend.
Vous
écoutez,
êtes en haut de la montagne.
Je suis en train de parler d'eau.
Ouais, c'est bien. Le monde s'inverse et tout n'est pas noir ou blanc. Donc, c'est parce que aussi vous aviez cette étiquette de elle a gagné l'Ironman. Vous pouviez aussi profiter de cette vague-là, justement.
C'est ça.
Vous parlez d'eau aussi, vous.
Oui, toujours.
Moi, on peut toujours parler d'eau, j'adore. Mais c'est vrai que c'était aussi ça. C'était aussi de dire, autrement, on se dit, mais c'est qui Loubna Frey qui a un rêve qui est un peu démesuré, et voilà. Donc ça m'a donné, je pense, je sais pas si j'en avais besoin, mais je me suis dit que ça me donnait une certaine crédibilité et un champ d'action, et qu'il fallait y aller. Alors après, j'ai eu pas mal de retours, on me disait mais t'es folle, c'est pas du tout, on est parti le 1er mars, là on était le 22 septembre, ça laisse pas beaucoup de temps pour monter une telle aventure.
Six mois.
Mais on fait comment alors? Parce que, vous aviez jamais fait ça.
Non.
Donc vous faites comment? Vous écrivez des lettres?
Oui, en fait, j'avais jamais monté une expédition. C'est vraiment quelque chose. Bah, déjà, on s'entoure bien. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris en triathlon et que c'est un peu quelque chose que j'ai dans ma vie. Et donc, il y avait bien sûr Mélanie, mais il y avait aussi Sophie Pelka, qui est très efficace, très, très, très efficace. Il y avait Francine, que vous avez eue aussi, Francine Morillon-Janet.
Ah, Francine Janet-Morillon, bien sûr, voilà. Ancienne championne du monde de freeride. On l'a reçue, oui, vous avez raison, il y a quelques mois.
Voilà, qui connaît beaucoup de monde, qui connaît bien ce genre de choses et qui nous a beaucoup aidés. Et j'avais, bien sûr, nous avions des amis qui ont mis la main à la pâte, en fait, et on a créé une équipe très solide, très soudée. On est allé voir la réalisatrice Aurélie Gonin, qui habite à Chamonix, et qui a dit oui tout de suite. Elle a dit mais j'y crois, on y va. Et voilà, ça s'est construit comme ça. Après, on s'est dit, on va aller. Je me souviens que j'ai dit à Sophie, elle le raconte aussi, mais que j'ai dit à Sophie, écoute, appelle tes idoles athlètes, donc Séverine Poncon, Maud Matisse.
Ça, c'est toutes des skieuses alpinistes aussi.
Voilà, Laetitia Roux, enfin, c'est des idoles. Elle s'est dit, mais je vais les appeler, je vais leur demander de venir sur cette Alpine Quest. Qu'est-ce qu'elles vont me dire? Et en fait, toutes les athlètes qu'on a contactées ont dit oui.
Que des femmes.
Que des femmes.
C'était une intention, ça, ou c'était un hasard, Loubna Frey?
Pas au départ. On était trois femmes. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Et après, on s'est dit, mais est-ce qu'on va aller dans le truc où il faut que ça soit balancé? Non. Est-ce qu'on demanderait ça si c'était une équipe d'hommes? Il y a eu assez d'équipes d'hommes qui ont fait des belles traversées ou des beaux sommets. Voilà, nous, ça s'est fait comme ça.
Mais l'étendard féminin, vous ne le brandissez pas, en fait. Hein. Vous dites que ce serait peut-être un peu artificiel et quoi, contre-productif?
Oui, exactement.
Oui, oui.
Oui, on s'est juste retourné vers des personnes qui avaient un peu les mêmes intérêts que nous, avec qui on avait envie de passer du temps en montagne, où on s'est dit que ça allait coller. C'est très important dans une cordée.
Oui.
En même temps, j'ai lu que vous disiez, on prend pas les décisions de la même manière quand on est entre femmes.
C'est vrai.
Que quand on est mélangé ou quand on est entre hommes.
Ça prend beaucoup plus de temps. Pas sur le terrain même, si on est devant un danger ou quelque chose, non. On est absolument stratifié. C'est Mélanie la guide, c'est elle la capitaine.
Donc, oui, c'était la question. Il y a une chef. Il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le final cut.
Mais ça prend plus de temps quand on est entre femmes.
Oui, je trouve. Parce qu'on s'assure que tout le monde est bien avec ses décisions. Et c'est très bien. Parce qu'une fois qu'on est sur le terrain ou qu'on traduit ça sur le moment difficile, on sait exactement qui va faire quoi, comment, et qu'on est tout OK avec ça.
Il ne faudrait nommer que des femmes chefs. Ça irait beaucoup mieux dans toutes les entreprises du monde.
C'est vous qui le dites.
Ah oui, je le dis, je l'affirme de manière assez péremptoire.
C'est archivé.
Et c'est, ça n'est pas une boutade. Au fond, c'est un mécanisme.
Oui, c'est vrai qu'on consulte. On surconsulte. Non, pas on surconsulte pas, mais des fois, c'est vrai que c'est fatigant. Mais en fait, ça donne des décisions qui sont très bonnes. Hein. Par exemple, renoncer à ce col dont on a parlé en Autriche. Hein. Je vous ai dit que les jours avant, c'était ça. Il y avait beaucoup d'appréhension, il y avait beaucoup de tension. Et je pense qu'en fait, on a eu une meilleure décision à ce moment-là. On est parti que Mélanie et moi aller voir, entre guillemets. Mais aussi, Sophie savait ce qu'elle devait faire. Maud Matisse était avec nous à cette période-là. On avait tous les éléments en main. On savait ce qu'on allait faire. On savait aussi que cette traversée, c'était pas, comment dire, c'est une performance en elle-même, hein, mais qu'on n'allait pas, comme vous l'avez dit au début, pour faire un temps, pour essayer de faire le chemin le plus rapide. Donc voilà, on a collé à nos valeurs.
Est-ce qu'il y a eu des moments de tension néanmoins?
Oui, bien sûr.
On entendait la voix de Mélanie Corté qui disait « c'est bien parce que la montagne c'est vaste, on peut prendre la place nécessaire quand il y a besoin d'être seul ». Entre les lignes, on lit quand même dans ce qu'elle dit que
oui,
pas toujours simple. Hein.
C'est pas toujours simple. Alors si j'ose mettre des mots, rajouter un peu dans ce que dit Mélanie, c'est-à-dire c'était pas toujours avec moi les tensions. On a eu beaucoup de jours que les deux, peut-être la moitié. Mais disons, c'est vrai que ça c'était une autre chose qu'on a su régler et gérer. Et, c'est-à-dire qu'on est deux et puis tout à coup on se retrouve à trois ou à cinq ou après on est de nouveau deux. C'est les changements de rythme. Sont importants et fatiguent aussi, mais en fait le fait d'avoir la glaciologue qui soit venue, d'avoir les athlètes qui viennent nous rejoindre, d'avoir toute cette vitalité, la réalisatrice aussi, mais ça fait que ça nous donnait de l'énergie, mais ça nous coûtait aussi d'une certaine manière. C'était pas simplement une traversée, c'était vraiment une épopée, une aventure à plusieurs. Et ça, je trouve que c'est très beau. Je suis très fière, très contente de ça.
Qu'est-ce que vous vous êtes raconté pendant la traversée? Que ce soit à deux, à trois, à cinq?
Ah non, alors il y a certaines... Moi, je suis assez silencieuse. Mélanie est très silencieuse, moi je suis assez silencieuse, mais non, on peut... Mais surtout quand Sophie était là, on pouvait parler, on se raconte plein de choses. Mais des fois, il faut vraiment... Pour moi, c'est important d'être dans le moment... Comme je vous ai dit, écouter la montagne, observer. On a vu des animaux, c'était incroyable, des choses. Là, on n'était que Mélanie et moi, je crois, oui. Mais on a vu un aigle hein, qui s'est posé sur une crête. Et un peu plus tard, on voyait un autre aigle qui nous tournait autour. Curieux, hein, ils sont très curieux. Ils venaient voir un peu ce qu'on faisait et il s'est posé à côté, mais en fait sur l'autre aigle. Et on les a vus s'accoupler. Moi, j'ai vu ça à l'œil nu. Mélanie avait son lorgne, là. Et en fait, c'est incroyable d'avoir vu ça.
Oui, je ne crois jamais avoir vu ça. Et pourtant, des aigles, on en voit régulièrement en montagne. Vous l'avez dit comme ça, subrepticement, Loubnafré, il y a un documentaire. Donc, dès le départ, d'emblée, il y a quelqu'un qui filmait.
Oui, pas toute la traversée, elle est venue, Aurélie Gonin est venue 4 fois sur la partie ski, donc faut dire que la partie ski était 45 jours, donc la plus grande partie de loin, et elle est venue à la transition vélo-ski et aussi à la fin bien sûr. Pour le trail.
Quand vous arrivez sur la plage.
Voilà.
À Monaco.
Alors là, quand on arrive, on reviendra sur le documentaire. Quand on arrive sur la plage, on fait trempette ou on est un peu échaudé par l'eau froide? On est quoi, le 23 avril quand même, hein?
Oui, elle était fraîche. Ça dépend si on est bagnarde ou pas.
Vous êtes à moitié bagnarde.
Oui, je suis à moitié bagnarde.
J'ai vu des images où il me semble que vous plongez dans l'eau directement.
Alors, celle qui plonge la tête la première, c'est Sophie.
Ah, c'était Sophie.
Mais elle nous avait dit que c'était ça qu'elle allait faire et c'est ce qu'elle a fait. Et moi, c'est ça aussi, hein, une cordée. J'étais au milieu, donc je tenais la main de Mélanie d'un côté, je voulais m'assurer qu'elle soit OK, que Sophie puisse avoir son moment dans l'eau. Voilà, c'était une réflexion de ce qu'on fait en montagne, en fait.
Ça fait comment quand on arrive sur cette plage? Enfin, on imagine une plage à Monaco. C'est quand même assez éloigné de la montagne sauvage dont on arrive.
Mais qui est quand même juste derrière, quand on se détourne. Mmh. Elles ne sont pas très loin, les montagnes.
Elle est très proche. Vous qui êtes grimpeur, il y a la tête de chien. Il y a des voies bon, qui sont difficiles parce qu'elles sont très, elles sont très limées par le temps.
C'est du calcaire très patiné, la tête de chien. Voilà. Mais c'est des voies de difficulté assez élevées, oui.
Oui, exactement. Donc c'est vrai qu'on y est en un quart d'heure. Mmh. On a passé de montagne pas le haut des Alpes, mais la fin des montagnes à la mer.
Et la plage à Monaco, qui est une petite ville bling bling, enfin voilà, les yachts, les voitures, tout ça.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un lien avec Monaco, mais je pense que c'était un peu plus difficile pour certaines autres athlètes et mes collègues de cordée de se retrouver à Monaco. J'ai une petite anecdote, Mélanie, on avait notre carte avec le parcours sur White Ridge. Et dans Monaco même, où il y a tunnels, ascenseurs, escaliers, enfin, building, essayer de trouver le chemin sur White Risk. Et là, je lui disais, Mélanie, c'est bon.
Alors, White Risk, c'est une application, on peut leur faire de la pub parce que c'est vachement bien. C'est notamment pour estimer le degré d'avalanche. Enfin, il y a une échelle de risque. Et il y a toute une méthodologie. C'est ça que vous employez, en fait, hein, comme logiciel.
Absolument.
Ouais. Ils n'ont pas mis Monaco dans leur truc.
C'est-à-dire que ça se trouble un peu, c'est pas vraiment fait pour...
Danger de casino, tout ça.
Voilà.
Dans quelle mesure votre expérience, et on y viendra aussi, Lublin Frey à la tête de Human Rights Watch, qui a rien à voir, mais comme vous nous le disiez, non, en fait, qui a tout à voir, dans quelle mesure ça vous a aidé à préparer ce voyage-là et à le vivre jusqu'au bout?
C'est intéressant comme question. Ça m'a aidé dans le sens de « il faut aller de l'avant ». Il faut foncer. Bien sûr qu'on ne prend pas les noms. Il y a plein de personnes qui m'ont dit non. Il y a plein de gens qui n'y croyaient pas à cette traversée que nous allions y être capables, qu'on allait même pouvoir prendre le départ. Donc l'expérience au sein de Human Rights Watch, si on baisse les bras, surtout dans le domaine des droits humains, et surtout aujourd'hui, on va peut-être y venir, mais si on baisse les bras, on perd tout son pouvoir. On perd d'avance.
Sign of the Times, ça vous parle, ça?
Oui.
C'est pas Bowie, c'est Prince.
Oui.
On est gâtés. Hein.
Ah oui. C'est Stéphanie Jovanovic aussi qui est de l'autre côté, qui programme tous nos disques. On la salue.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Ship explodes and everybody steals to fly.
space beach, Star Wars fly, neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn time?
Sign of the Time, c'était bien sûr Prince, votre choix, Loubna Frey. Vous parlez à la fois de contrôle et de perfection, et pourtant, en écoutant Prince, on sentait, c'est vous qui nous l'avez dit, que ça pouvait partir en cacahuète, que ça pouvait partir en... en pure impro. Vous l'avez vu en concert, lui, contrairement à Bowie.
Je l'ai vu, malheureusement, j'ai pas vu Bowie, mais j'ai vu Prince trois fois, ouais.
Ah, trois fois?
Oui.
En Angleterre. À Wembley.
C'est-à-dire si vous l'aimez bien.
À Wembley. Et je l'ai vu aussi au Madison Square Garden à New York. C'était magnifique.
Vous avez une belle vie, vous.
Oui, je trouve aussi.
Vous traversez les montagnes.
Ça, 50 jours dans les Alpes, oui.
Un stage de journalisme au commissariat de Manhattan.
Oui.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, vous avez raison Mélanie.
Oui, NYPD.
NYPD, exactement. C'était en fait le commissariat qui est au sud de l'île de Manhattan, où il y a la police. Je crois que ça s'appelle Police Corps, je ne sais pas si c'est toujours là. Et comme j'étais la petite dernière, et puis que j'avais un accent français, ils aimaient bien me mettre là-bas. Et en fait, mon rôle était d'essayer de sortir toute l'information possible de ces policiers du Bronx et de Queens. Ils étaient bourrus, mais en fait, oui, j'ai bien réussi mon travail, je crois.
Donc journaliste quelque temps.
J'ai fait la school de journalisme à New York, à l'université de New York.
Et
un master's.
Ah oui, bah oui, c'est mieux que nous. Hein. Personne n'a ce papier autour de la table.
Hein. Ni ses gros bras, ni ses gros bras. D'où sortez-vous ces bras?
C'est pas les gros bras.
Cette musculature.
C'est les bras fins et musclés.
C'est les bras d'athlète.
Mais vraiment.
Vélo, natation et course à pied. C'est quoi le plus dur dans le triathlon? On dit toujours que c'est la natation.
Absolument.
Vous confirmez?
C'est le début en fait.
Alors, dans les entraînements, c'est le plus dur parce que, surtout pour moi, j'étais pas nageuse à la base. Le jour même, quand on fait un Ironman, non, bien sûr que le marathon est le plus dur parce que c'est
la fin.
C'est
parce
la cerise sur le gâteau, si j'ose dire.
Oui, et puis ça reste quand même un marathon.
Oui, mais 3,8 km de natation, faut quand même
moi,
le faire.
Moi, ça prend 3 heures.
Ouais, c'est ce qui passe le plus vite. C'est fait en une heure et quart. Les pros le font en bien moins.
Natation, ça se passe où? Dans une piscine?
Non, sur un plan d'eau libre.
Natation en eau libre.
En eau libre. Donc par exemple, l'endroit mythique où il y a les championnats du monde d'Ironman, ça c'est Hawaï, sur l'île de Big Island. Et donc c'est l'océan Pacifique où il y a toutes sortes de choses qui nous passent dessous. L'eau est très belle, mais bon, c'est un océan. Et en plus, ils nous font nager vraiment vers le large. C'est une grande ligne droite vers le large. Il y a des courants. On se dit, mon Dieu, je vais faire 1,9 km. Oui, des vagues.
Requins, on
etc. Et on tourne au bout d'un kilomètre neuf, on tourne autour d'un bateau et on revient dans l'autre sens et on se dit ouf, ça va être plus facile, je rentre. Et en fait, c'est là qu'il y a vraiment les courants qui commencent et.
Les courants contraires.
Voilà. Et c'est dur.
Et c'est pas 3,8 km en bassin, en piscine, c'est-à-dire avec des vaguelettes causées par les concurrents d'à côté. Sur un plan d'eau libre, ça veut dire qu'il y a les vagues de la mer, il y a le vent.
Il n'y a pas le rebord de la piscine.
Il n'y a pas le rebord de la piscine.
Pour pousser, oui.
Des méduses, tout un tas d'autres choses agréables
comme
ça.
Oui, il y a cette fameuse histoire de Daniela Ryf, hein, 5 fois championne du monde en longue distance.
Triathlète suisse.
Qui vient de prendre sa retraite. Et en fait, quand elle est partie pour la quatrième fois pour gagner les championnats du monde, En fait, on entre dans l'eau et après, ils nous font nager et on n'a pas le fond. On doit nager comme ça pendant quelques minutes à essayer de tenir, à flotter. On a les gens des autres de notre catégorie qui poussent derrière. Et en fait, elle, à ce moment-là, elle s'est fait piquer par une méduse et elle a quand même gagné les championnats du monde en tant que professionnelle.
Ça, moi, j'adore cette émission pour le bénéfice d'humilité avec lequel on repart.
On se plaint moins quand on doit aller faire ses courses après l'émission.
Émilie, j'ai envie de dire, chacun son truc.
Voilà.
16h25 sur RTS Première.
Émilie a une question et tout le monde y répond.
Chacun son truc, vous le vôtre en tout cas dans cette émission, Émilie, c'est d'aller poser des questions aux gens.
Oui, des fois c'est pas si facile. Hein.
C'est un triathlon aussi parfois.
En micro en demandant, dites-moi, la montagne, puisque Lubna, vous avez fait 50 jours de Vienne à Monaco par les Alpes. La montagne, est-ce que c'est pour se fuir ou pour se retrouver?
Waouh.
C'est pour se retrouver, se recentrer sur soi-même.
C'est pour se retrouver mais fuir d'autres choses que nous-mêmes.
Qu'est-ce que vous fuyez, vous?
Les gens, des fois.
On est face à la nature, face à soi-même, et on oublie tous les problèmes, tous les soucis de la vie.
Je sais que c'est superbe ici. Quand je pense qu'hier, j'étais rue Montmartre.
Je travaille pour la radio.
Oui, c'est la radio que j'écoute le plus. Il y a des choses très intéressantes à la première. Et puis l'après-midi, il y a un mélange, un peu de tout. J'aime beaucoup.
Eh ben, je suis ravie que vous nous écoutiez. Oui. La montagne, est-ce que c'est pour se fuir ou pour se retrouver?
Pour se retrouver. Avec mes amis, on profite du beau paysage, on va manger une bonne assiette, boire un verre, et puis on est content.
Ça fait envie.
Ça fait du bien.
Je suis pas mécontent de cette promenade.
Je pense que c'est un endroit pour fuir le monde et un endroit pour se retrouver soi. On dit souvent que quand on part quelque part, nos problèmes y restent avec nous. Et je crois que c'est assez vrai, en fait. Où qu'on aille, qu'on soit en montagne, à la plage, en fait, les problèmes qu'on a au fond, ils restent. Et puis, c'est le moment de travailler dessus.
La montagne, c'est pour fuir ou pour se retrouver?
Alors, pour moi, ni l'un ni l'autre, parce que j'aime pas, ça monte.
On va un peu partout. On va aller en Suisse allemande, même dans le Jura. Voilà, on n'a pas de but précis.
La montagne, est-ce que c'est pour se fuir ou est-ce que c'est pour se retrouver?
Ah, c'est plus que se retrouver. Je pense que c'est pour communier avec ce qui est autour de nous.
Oh, la montagne, c'est l'angoisse, la montagne.
J'aimais beaucoup marcher, mais je me suis cassé le fémur. Et maintenant, j'ai un peu plus de peine et j'ai des problèmes de cœur aussi. Alors à la montée, je suis essoufflée. Mais je regrette parce que j'aimais beaucoup la montagne. Voilà.
Ouais, c'est un peu l'angoisse quand même. Je préfère me retrouver quelque part dans la forêt plutôt, c'est mieux.
La montagne, c'est pour se fuir ou c'est pour se retrouver?
Pas pour se fuir, non. Pour fuir éventuellement un peu les autres, mais plus pour se retrouver. Moi, je fais de la randonnée seul. C'est un bon moment avec moi-même. Je m'engueule des fois, je suis content d'être là des fois, mais c'est un moment avec soi-même. C'est plus pour se retrouver, je pense.
Bah, se fuir, c'est pour se retrouver. C'est ça le principe. Donc d'abord, on s'enfuit et ensuite, on se retrouve.
J'adore partir en montagne et encore seule, mais loin, très loin. Ah ben, je suis partie en nord de l'Inde, hein, Cachemire, entre autres. Hein, et j'ai fait de la marche là-bas et c'est juste magnifique.
Mais alors, toute seule?
Oui. Ou aussi au Népal, je suis partie. Et ça, c'est des belles expériences. Et quand on marche, quand on est seul dans ces montagnes, on se retrouve. Oui, c'est ça, se retrouver.
C'est comment se retrouver soi-même? Ça fait mal? Ça dérange?
Non, ça fait extrêmement du bien. C'est magnifique.
Ouais, c'est pour s'échapper, c'est pour kiffer, s'évader.
Juste, je me pose et j'ai eu la chance l'autre jour de voir plein de couples d'oiseaux en train de créer leur nid. Moi, c'est juste ça mon bonheur. Ouais.
Pour se retrouver et puis se reposer.
Faites ça comment, vous vous retrouvez?
Je fais du ski.
Et puis ça vous aide tout de suite?
Ah oui.
À quoi? Ça vous aide à quoi?
Bah, ça détend, ça décompresse, ça... La montagne, c'est un autre monde, en fait.
Vous me répétez, qu'est-ce que vous m'avez dit?
La montagne.
Oui, la montagne.
Est-ce que c'est pour fuir ou pour se retrouver?
En français, comment on dit? Je suis bien. Mais ça fait longtemps que je ne suis plus allée.
À la montagne?
Ouais.
Il faut avoir une voiture. Alors, avant, j'allais beaucoup. J'ai fait tout le Valais. Oh. Ouais, ouais, mais maintenant, les bobos.
Maintenant, vous faites des petites montées.
Oui, par là, oui, avec les chiens, oui, tout à fait, tout à fait.
Oh, c'est une très bonne question. Je pense que c'est pour se fuir dans un premier temps, mais ensuite on se retrouve.
Et quand vous vous retrouvez, ça fait quoi?
Oh, ça fait un moment que j'ai plus refait, du coup.
Du coup, vous êtes perdu, là.
Je suis un peu perdu, ouais, en effet.
Et vous, Émilie Lamontagne, pour vous fuir ou vous vous retrouvez?
Ah, je trouve que ça peut être très dérangeant hein, d'être seule, de marcher, de se confronter à soi-même. Je ne sais pas comment Lumna, vous l'avez vécu pendant ces 50 jours. Bon, vous aviez deux copines, si j'ai bien compris. Mais,
Il y a pas mal d'autres mondes autour aussi. Ouais.
Le face-à-face, on se parle beaucoup dans sa tête. Hein.
c'est vrai, comment appréhendez-vous la question 54 jours, vous fuir, vous retrouver, peut-être tout à la fois?
Alors au début, je l'appréhende comme une préparatrice mentale pour athlète. Donc c'est vrai que le dialogue interne est quelque chose qu'on a, quoi qu'il arrive, hein, qu'on fasse de la montagne ou quoi qu'on fasse, on a un dialogue permanent.
Très bavard.
Dans notre tête, exactement. Et donc ça c'est, alors voilà, on va pas, je pourrais travailler là-dessus avec vous, Émilie, si vous le voulez, mais c'est vrai que en fait, au fil des jours, et donc 54, c'est vrai que c'est pas mal. Au fil des jours, j'étais très bien avec moi-même dans cet espace qui était infini et dans cet espace dans ma tête qui était aussi infini. Donc c'est vrai que je pense que pour tous, tout athlète ou toute personne qui fait, et j'ai adoré que vous ayez tellement d'aventurières que vous avez retrouvées comme ça sur le trottoir, c'est magnifique de tout âge on dirait.
Et insoupçonné. C'est surtout ça. J'aurais jamais imaginé que cette personne soit une adepte de la montagne, parte au Cachemire, au Népal. Non, c'est très
fabuleux.
Touchant.
Vraiment fabuleux. Et je pense que c'est ça. Il faut pouvoir être assez bien avec soi-même pour bien le vivre. Ou alors, on part dans quelque chose que ça devient un voyage
thérapeutique.
Voilà. Mm-hmm. Ça peut être autre chose. Mais moi, je le vis très bien et je vous ai mentionné un peu au début, enfin, à un moment donné, comme quoi ça a été difficile de prendre la décision de revenir dans le monde. Vraiment.
J'allais dire, c'est une sorte de dépression postpartum. Non, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment, il y a un grand vide après.
Oui, c'est le vide et peut-être qu'en fait d'une personne avec qui vous avez parlé, Émilie parlait de communion. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on est en communion avec la montagne et on peut être plusieurs. On n'a pas besoin d'être toute seule, on peut être seul. On est en communion. Et là, on est vraiment bien. Et je pourrais tomber dans le spirituel, mais je ne vais pas le faire.
Si, sentez-vous libre.
Bah, disons que c'est, pour moi, c'est ça, la spiritualité. C'est une forme de spiritualité. Je suis ouverte à tout, mais voilà. Ça, c'est ma forme, en tout cas, la forme que j'ai trouvée de spiritualité.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Pardon, Émilie, allez-y.
Non, juste dans cette idée de communion et de spiritualité, qu'est-ce qui concrètement se développe, se passe pour qu'on se sente lié à ce qui nous entoure? Vous ressentez quoi à ce moment-là? Vous percevez quoi?
Je suis complètement 100% dans le moment présent. Et c'est tellement du bonheur de pouvoir faire ça. Et je pense que la vie de tous les jours, que ce soit avec nos téléphones, mais plein d'autres choses, nous a enlevé ça.
Donc une certaine épaisseur. Vous vous sentez complètement là, pleine, reliée.
Oui, reliée.
Pas distraite.
Exactement. Reliée, pas distraite, c'est même pas une question, parce que ça me vient même pas à l'idée. Ou alors c'est un animal ou une de mes collègues qui va me distraire, mais disons parce qu'il y a besoin de parler. Et pleine, oui, dans le sens que je suis complète.
Vous avez parlé de ce sac qui était 12 kilos, hein, à peu près, au maximum. Ce grand dépouillement aussi, qui peut-être fait du bien, de lâcher toutes ces choses qui nous semblent absolument nécessaires quand on est ici. Et qui finalement sont pas si nécessaires que ça. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est dur de revenir là-dedans.
Oui, c'est une façon de faire. C'est vrai. Je suis rentrée à la maison, j'ai regardé mes armoires, je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai commencé à faire un grand tri.
Et comme montagnard, parfois le sac il commence à peser aussi. 12 kilos, certes c'est pas énorme, enfin c'est quand même 12 kilos tous les jours pendant 5, 6, 7 heures sur 54 jours. Moi, j'ai une autre vision, Mélanie, c'est que le sac à dos, certes, alors c'est toutes nos affaires et c'est très peu, il y a une forme de sobriété, mais sobriété heureuse, ouais, il faut le dire, parce que au bout de quelques jours, quelques heures, ça pèse ces 12 kilos.
D'où les bras.
D'où les bras.
Ça va dans mon sens, ça veut dire que même 12 kilos, oui. Même si peu de choses, c'est déjà beaucoup.
Oui, alors en fait, on dit la même chose.
Mmh. Oui, ah, oui, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a aussi tout le matériel technique, vous le savez, Simon, donc là, ça, on est obligé de l'avoir. On s'est posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on peut faire en sorte que ce sac soit plus léger? Mais ça, c'était pas possible. Et je vous, simplement, donc c'était en moyenne, nous faisions 7 heures par jour.
Oui.
Donc il y a eu des jours à 11h, 11h20, donc comme un Ironman. Et c'est vrai qu'il y a eu une ou deux fois où c'était 5h, 5h20, mais c'était des bonnes journées.
Oui, 7 heures par jour, c'est des bonnes journées. Oui. Surtout
que dit
quand
le médecin par rapport à votre santé? Je vois que vous avez une grosse montre, je pense qu'elle calcule vos rythmes du cœur, vos battements de cœur, etc. Tout ça. Que dit le médecin de tout ça?
Alors hier, je suis allée voir un médecin parce que je vais avoir un certificat pour une course de vélo. Et donc, où il demande ça en Italie. Et le médecin voulait me voir, il ne me connaissait pas. Et il m'a demandé, il me dit, mais vous avez 57 ans, il faut faire un électrocardiogramme. J'ai dit, écoutez...
Je pense que c'est bon, je suis championne du monde d'Ironman.
Je vais vous prendre la pression. Et après, bon, fil de la conversation, il a dit, bon, d'accord. Normalement, pour l'assurance, on doit faire un électrocardiogramme. Alors, moi, je ne suis pas hyper connectée. Il y a beaucoup d'athlètes, et notamment en triathlon, mais d'autres aussi. Sophie, il est beaucoup plus que moi, qui sont hyper, hyper connectées.
Ça veut dire qu'on surveille ses paramètres en permanence, la pression sanguine, les pulsations, toutes ces choses-là. On a la ceinture thoracique, hein, voilà.
Oui, et puis en orange, on a probablement un régime spécial.
Alors le régime, c'est vrai que je fais attention. Moi, c'est quelque chose que je peux contrôler et qui est important. L'hydratation a été primordiale pendant, et surtout parce qu'on a eu très chaud par moment. Mais c'est vrai que, alors la pression, non, on surveille pas en permanence.
Pas la pression.
Non, pas la pression. Mais c'est vrai qu'il y a, oui, on surveille le rythme cardiaque. Alors moi, je le fais pas. Je le fais quand je m'entraîne spécifiquement pour une course. Mais autrement, je le fais pas. Là, pour une traversée, je ne vais pas le faire. Mais
sinon, on est tout le temps obnubilé par ces données-là. Et au fond, on ne se connaît plus soi-même.
Alors ça, c'est un des arguments. Et moi, je suis assez d'accord avec cet argument-là, mais il y a d'autres athlètes qui ont une autre façon de penser, parce qu'ils veulent aller chercher une certaine excellence. On arrive à 80% de notre capacité, disons, en tant qu'athlète, et qu'après, ces autres 20%, il faut aller les chercher. Donc c'est dans la minutie.
Un cœur au repos d'une championne du monde d'Ironman, à combien bat-il, si c'est pas trop indiscret?
52, 50, 48.
Oui, je pense que oui, ouais. Je pense que je suis...
48, 50.
C'est marqué sur votre montre, là?
Non. Là, j'ai pas mis la ceinture pour venir chez vous. Peut-être que là, au début, ça...
C'est du sport aussi, la radio. Suzanne Vega, Chambermaid. Ah bah ça, ça peut peut-être rappeler
quelques...
C'est
un tout nouveau titre, de Suzanne Vega.
Oui, oui, absolument, c'est un nouveau
On
titre.
Adore,
oui.
Suzanne Vega.
Oui, oui, mais ça rappelle quelques années new-yorkaises, c'est ça que je voulais dire.
Absolument.
I'm the great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has stayed and clean crumbs from his typewriter. He is good to me. There's nothing he doesn't see, and he knows where I'd like to be. Matter. Mm-hmm. On my day off, I haunt the docks, keep to myself. I go for walks. I just make sure the lock still locks as my ship is coming in. My mind and hands, they are my trade. I finger sentences he's made. I follow every curving of his brain. Did I ever steal? He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. Only once I stole a kiss. I used to pretend that I was queen, but over time I quit that scene. Cost too much to even dream in that direction.
I long for pleasure and release. Oh, how I wish the din would cease. I could do with some protection. You want to know, did I ever steal? He never leaves anything out, that's real. I took nothing he would miss, and only once I stole. Chambermaid, I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has played and clean the crumbs from his typewriter. He often gives me sage advice when I dream of him at night. He slips his pen into my hand and says, don't forget to write.
Chambermaid, Susan Vega, ça rappelle un peu I Want You de Bob Dylan.
Ah oui, c'est un peu
en train de se dire
mélodie,
ça,
hein.
C'est un peu la même mélodie, je ne sais pas si c'est volontaire.
Je viens de vérifier, elle a 65 ans.
Oui, 60, bon, c'est jeune, 65 ans.
Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout est relatif.
Tout est relatif, ma bonne dame. Lumna Frey, vous êtes avec nous. Susan Vega, c'est New York, évidemment. Et New York, ça vous rappelle beaucoup de choses, notamment cette cérémonie de remise de diplôme à la Harvard Kennedy School, mai 1999.
Oui, alors j'ai fait deux diplômes, enfin non, trois masters aux États-Unis, mais
trois masters.
Oui,
vous faites jamais les choses à moitié en fait.
Non, c'est vrai. Et puis bon, j'aime apprendre, mais c'est vrai que le premier était à l'université de New York en tant que en journalisme, hein. Et cinq ans plus tard, c'était à l'Harvard Kennedy School à Cambridge, dans le Massachusetts.
Ça c'est pas New York effectivement.
Harvard, c'est pas New York.
C'est pas très loin, mais c'est pas à New York, ouais.
Et c'est pas la même vibe, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que...
Vibration,
oui, c'est plus sérieux, c'est la vieille Angleterre, ou la nouvelle Angleterre, comme ils appellent ça, qui est un peu chamboulée en ce moment. Il se passe beaucoup de choses, si vous voulez qu'on en parle, mais...
Je veux qu'on en parle.
Voilà.
Le président Trump a décidé d'interdire la venue d'étudiants étrangers là-bas.
Exactement. Et par exemple, à la Kennedy School, nous étions 40, je me souviens plus si c'est 42 ou 47% d'étrangers. Donc, l'école est décimée. C'est une façon, c'est ce qui m'embête avec ce qui se passe. On peut être d'avis politique différent. Mais là, il y a beaucoup de cruauté. Là, c'est des étudiants qui vont, pour certains, c'est toute leur vie de pouvoir être accepté à Harvard, de venir du monde entier. On venait vraiment du monde entier. C'est très compliqué. Après, il y a d'autres types de cruauté. C'est encore pire quand on prend des gens, on les rassemble, des Vénézuéliens et autre chose, et qu'on les envoie dans des prisons, que ça soit au El Salvador, où on sait qu'il y a de la torture. Ça peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui
Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Oui.
C'est ce qui se passe aux États-Unis. Et ça vient un peu tous azimuts, plusieurs longueurs d'avance. Et ce qui m'embête vraiment, c'est la cruauté, comme je dis. C'est-à-dire que c'est fait pour faire peur. Et en fait, vous avez parlé de l'Irak au début, le pays où je suis née. Et quand j'ai lu et j'ai écrit un livre là-dessus un peu pour moi, mais en fait, ce qu'ont fait Saddam Hussein et son oncle hein, dans les années 68 et 70, etc., c'est qu'ils ont fait peur à la population.
Vous faites le parallèle de Saddam Hussein à Donald Trump?
C'est intéressant là. Est-ce que je fais le parallèle hein? Je pense pas qu'on en ait. Les prisons irakiennes étaient connues pour la torture, vraiment le niveau de torture. On n'en est pas là aux États-Unis.
Pas encore.
Et on va pas les laisser aller là. Je crois qu'il faut vraiment ne pas donner trop de pouvoir. Ils en ont pris beaucoup très vite parce qu'ils avaient une longueur d'avance. Qu'il faut être très attentif. toujours nommer ce qui se passe et reprendre le dessus. Et j'ai bon espoir avec les tribunaux. Je pense que les juges et même la Cour suprême.
J'allais dire la Cour suprême est aux mains de Donald Trump. Enfin,
il a nommé
de
pas
son
mal
camp.
De juges en tout cas.
Absolument.
Qui sont d'accord avec lui.
Ils sont 9. Il en avait 6 dans sa main. Il est en train d'en perdre, pas pour toujours, mais il est en train d'en perdre. On est plutôt à 5-4 maintenant. Donc. Et il y a après tous les autres tribunaux. C'est un pays qui est archi, comme vous le savez, légalisé, en fait. Ça prend plus de temps. Comme la Cour pénale internationale, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Ça prend du temps. Mais ça agit. Et on a maintenant pas mal de... on a Rodrigo Duterte des Philippines qui se retrouve dans les mains de la Cour pénale internationale. Ça c'était pas comme ça quand je suis partie en traversée. En fait, c'est pendant la traversée aussi qu'il s'est fait arrêter. Il y a des choses qui se passent. Hein. Il faut pas baisser les bras.
Quand vous venez de dire on va pas le laisser aller jusque-là, on sait aussi Human Rights Watch dont vous vous occupez. Enfin, vous siégez au board, comme on dit en français, au comité
conseil
de direction. Conseil de... Comment on traduit board? Conseil de direction, oui.
Conseil d'administration,
absolument.
Conseil d'administration.
On sait qu'il aime pas trop ça, Donald Trump. Hein, effectivement, tout ce qui est aide au développement, tout ce qui est droits humains. Quel est votre destin new-yorkais? Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues à Human Rights Watch depuis 3 ou 4 mois? Est-ce que l'administration américaine, je ne sais pas, les services vous embêtent, vous empêchent de tourner en rond?
C'est exactement ça. Ils nous mettent des bâtons dans les roues, c'est-à-dire pour les visas de beaucoup de chercheurs. Hein. On a 80 nationalités représentées au sein de Human Rights Watch. Déjà, Human Rights Watch, c'est une ONG de 500 personnes.
On peut peut-être dire très brièvement ce que c'est.
Ce que c'est, oui.
Vous faites.
Oui, c'est une des plus grosses, elles sont deux, hein, mais une des plus grosses ONG qui se bat pour la défense des droits humains dans le monde entier.
Et ça ne dépend pas de l'ONU, c'est une ONG.
C'est une ONG indépendante, elle ne prend aucun argent gouvernemental. Donc déjà là, il ne peut pas nous embêter.
Mais vous avez du boulot en ce moment. Hein.
Mais on a du boulot et surtout, c'est vrai qu'on a besoin des visas. Et ça, il est en train, c'est là-dessus qu'ils sont en train de nous embêter. Les visas viennent pas. On a certaines personnes au sein de Human Rights Watch qui ne sont pas américains, qui n'osent pas sortir du pays de peur de pas pouvoir rentrer. Et ils ont leur famille aux États-Unis. Donc, l'administration de Trump ne nous a pas encore attaqué frontalement, parce qu'ils ont d'autres, ils ont fait ça, ils font toutes les institutions démocratiques.
Les coupures budgétaires ont été faites dans l'USAID. Donc.
Voilà.
Mais ça vous a pas affecté?
Pas seulement coupures, ils ont arrêté USAID.
Ils ont supprimé.
Supprimé, du jour au lendemain.
C'est pas des économies, c'est une suppression pure et simple.
Pure et simple. Après, ça a été aussi les firmes privées, c'est-à-dire les avocats, les grands cabinets d'avocats. Ils sont allés vers 3, ils les ont attaqués eux frontalement. Après, ils attaquent les universités. Alors une dizaine, disons. Harvard a pris la relève pour se battre contre l'administration Trump. C'est bien, c'est ce qu'ils devaient faire et ils sont en train de le faire. Nous, 500 personnes, on l'embête, mais on n'est pas encore dans son collimateur frontalement. Ça peut arriver. On est prêt.
À part les visas, qu'est-ce qui pourrait arriver?
On a une licence pour opérer aux États-Unis. C'est comme un livre pour autocrates. Ils font tous la même chose. Que ça soit Erdogan, que ça soit Xi Jinping. Alors, Xi Jinping, il n'y a même pas d'élection, mais quand même.
Vous dites qu'ils suivent un mode d'emploi, c'est ça?
C'est ça. Ils suivent un mode d'emploi. Modi, en Inde. Exactement le même mode d'emploi que Trump est en train de suivre. C'est tout pareil. Et, en fait, c'est pour ça qu'il faut, en plus, Human Rights Watch a l'habitude. On a l'habitude de s'occuper d'autres pays. Je pense que pour beaucoup d'Américains, c'est très touchant, ça les bouleverse, hein, que ça soit dans leur propre pays. Maintenant, ils y croyaient à ce pays.
Vous n'avez pas cité le premier ministre israélien?
Benjamin Netanyahou. Donc lui, il y a un mandat d'arrêt contre sa personne et aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Gallant, de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ils ont comme Poutine, comme beaucoup de ses dirigeants, le monde devient plus petit. Ils ne peuvent plus voyager comme ils aimeraient. Ils n'ont pas la liberté que nous avons. pour les crimes qu'ils ont commis. Et donc, s'ils sont dans un pays qui est membre de la Cour pénale internationale, il y en a beaucoup, ils doivent normalement se faire arrêter.
Mais ils ne se feront jamais arrêter.
Je crois pas que vous et moi savez ça. On ne le sait pas. Aujourd'hui, non.
Ils s'arrangent pour ne pas y aller.
Voilà. Poutine ne va pas au rendez-vous des BRICS, par exemple. Enfin,
ça,
voilà.
C'est simple. Pourtant, on sait très bien où ils sont.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas donner place au cynisme. Hein. C'est déjà incroyable que de notre temps, on ait ces noms-là qui soient attribués à des crimes commis et qu'on puisse en parler comme ça. Il y a cette Cour pénale internationale, elle a quoi, 40 ans, 20, 30 ans, et c'est déjà incroyable. Et la pression que les gens qui travaillent dedans, ou qui sont liés d'une façon ou d'une autre, subissent, eux et leur famille, c'est incroyable. Donc, je veux pas me laisser, et je crois que le cynisme n'est pas bon allié pour discuter de ce genre de choses-là. Il faut plutôt avoir de l'optimisme. Nous faisons des erreurs, nous votons, Donald Trump a été voté d'une façon ou d'une autre, mais je pense que les gens américains sont suffisamment intelligents pour voir ce qui se passe.
C'est vrai que quand vous faites le travail que vous faites, travailler dans le domaine des droits humains, on ne peut pas être cynique. Hein. Ça, c'est totalement incompatible. C'est même le contraire du cynisme. Oui. Loubna Frey, on va écouter Georges Brassens pour... Non, pas se détendre un peu, parce qu'on n'est pas particulièrement tendu, mais enfin...
La musique adoucit les mœurs.
Pour prendre un peu de spiritualité, là, en l'occurrence. Et puis, on se retrouve pour que vous nous racontiez quels sont vos projets.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays. Et vertes années, par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis à retrouver, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Ah, il aurait pu l'écrire il y a quelques semaines, cette chanson. Heureux qui communie, c'est là. 60 ou 70 ans, c'était Georges Brassens. Loubna Frey, 16h53. Malheureusement, l'heure est passée à toute vitesse, mais bon, vous aimez bien vous mesurez au chronomètre aussi parfois. Projet, quels que soient vos projets dans le domaine des droits humains ou dans le domaine très sportif. Alors d'abord, oui, ça on peut le rappeler, il y avait une réalisatrice, un film va sortir a priori sur votre traversée alpine, sur l'Alpine Quest. Est-ce qu'on peut donner une date ou un environnement temporel?
Oui, ça va sortir à l'automne.
Un long métrage, j'imagine.
Alors oui, entre 44 minutes et 52 minutes, on verra.
Parfait pour les TV, ça.
Oui.
On imagine que ça passera à la télé, peut-être dans quelques cinémas, sûrement.
Oui, on verra.
Et un livre?
Alors, vous me poussez sur cette question de livre. J'y réfléchis, mais je ne reste pas suffisamment de temps assise pour l'écrire pour l'instant. Il y aura un moment où je vais me poser. Mais là, tout de suite.
Vous pouvez l'écrire sur votre vélo en faisant les 180 km
de vélo. Je peux l'éditer.
Sur le plan sportif, sur le plan du triathlon, par exemple, vous remettez votre titre en jeu, j'imagine?
Oui. Je remets mon titre
en
jeu.
Et là, vous venez de lever les yeux au ciel.
Oui, parce qu'il faut que je récupère, que je me repose de cette épopée et que je travaille sur le film. Et ensuite, il faut commencer les entraînements pour le titre. Mais c'est pas tellement le titre. Je pense que cette fois-ci, ça sera à Hawaï pour les femmes au mois d'octobre. Et j'aimerais que ça soit une célébration. C'est un peu... Peut-être que ça sera mon dernier Ironman. Et donc, de vraiment bien le vivre. En communion, tiens.
Qu'est-ce qui vous fait dire que ça pourrait être le dernier?
Parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Et que ça prend beaucoup. C'est très exigeant comme entraînement, trois sports, etc. Et notamment, on a monté une fondation maintenant avec Alpine Quest. Et cette notion de pouvoir utiliser notre voix, faire quelque chose qui est un peu hors du commun, rassembler et en parler... pour, y compris aux futures générations, mais en tout cas pour changer un peu les esprits, ça m'interpelle. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire.
Donc ça pourrait être un fil conducteur de votre action future, ça, l'Alpine Quest, comme une sorte de métaphore, cette traversée alpine pour ensuite progresser et passer à l'action.
Vous avez une citation sur l'action d'ailleurs, Lou Nafé, que vous avez notée, je crois.
J'ai plein de citations. Mais c'est vrai. Il y en a une, notamment quand on parlait d'Elie Wiesel, hein, qui est quand même incontournable, hein, qui dit que l'action est le seul remède à l'indifférence. Et c'est profond. Et surtout venant de lui. Mais je pense qu'en effet, l'action est quelque chose qui m'anime. Alors, je veux pas me comparer à Elie Wiesel, hein, mais qui m'anime et que c'est important. Chacun à son niveau. S'il y a bien quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que, Alpine Quest est venu aussi du fait que de pas rester dans ce genre d'impuissance. De ma fenêtre, je vois le petit combin et un peu du grand combin, et je vois le petit combin changer, notamment en été. Je le vois triste, il est gris, et notamment ces étés.
La glace sur sa pente a fondu sur sa paroi.
Exactement, je le vois à l'œil nu. On le voit les mois de juillet en particulier, qui sont devenus très chauds. Et en fait, de faire l'Alpine Quest, alors chacun a sa traversée à son niveau. Et c'est pas besoin d'être quelque chose de sportif. Je pense que c'est important d'oser faire un pas vers quelque chose qui nous anime et qui nous plombe. Faisons quelque chose.
Qui nous tient à cœur, en tout cas.
Et qui nous tient à cœur.
En attendant, donc, il y aura peut-être pour la dernière fois les championnats du monde d'Ironman. Ce sera à Hawaï au mois d'octobre. Et, d'ici là, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine? Par
20.
Jour 20 par semaine.
Oui, ça, c'est les heures vraiment effectives, oui. Oui.
Et vous partagez entre natation, vélo et course à pied?
Oui, mais je peux faire plein d'autres choses aussi. Juste promener mon chien, enfin, plein de choses rentre dedans.
Ça, c'est pas du sport, si?
Oh, si! Mais si, exactement, dans la forêt. Mais si, et on règle plein de choses.
En promenant le chien.
Oui.
Je vous crois toutes les deux, puisque ça, vous le partagez.
Oui.
Merci infiniment.
La seule chose sportivement qu'on partage.
Merci infiniment, Lou Nafé, d'avoir été des nôtres. Ben, donnez-nous de vos nouvelles, hein, puis on vous suivra cet automne à Hawaï. Hein. On vous souhaite le meilleur.
Merci.
En attendant, eh bien, on se retrouve demain, chère Mélanie.
Même après-demain. Parce que demain,
ah oui, nous sommes mardi, donc on se retrouve jeudi. Oui,
oui, oui, demain, c'est Dunia Mirales qui sera là, mais pas nous. Elle sera avec Émilie Gasque. Dunia Mirales est écrivaine. Puis après-demain, on sera avec Alan Numrose, qui est photographe. Depuis de longues années, il fait un travail absolument magnifique.
Il photographie les trottoirs et le macadam, le bitume.
Notamment.
Mais pas que.
Et plein d'autres choses. Il a fait des portraits aussi très, très beaux.
On se réjouit de l'accueillir. Bastien Testori était avec nous à la réalisation. Et juste avant de faire un coucou à l'ami Pierre-Philippe, on part sur les routes.
Infotrafic RTS.
Et notamment sur le contournement de Genève, les automobilistes doivent compter près d'une demi-heure pour rejoindre la douane de Bardonnay depuis l'aéroport. Au chapitre des travaux nocturnes, deux fermetures importantes cette nuit. La première sur la Transjurane dans les deux sens entre Courgenay et Glovelier de 21h à 5h du matin. La seconde sur la 12 Vevey-Fribourg entre l'échangeur de Lavers et Châtel-Saint-Denis en direction de Fribourg de 22h à 5h. Des déviations seront mises en place dans les deux cas. Un panorama des perturbations pendulaires en cours est à votre disposition sur le site rts.ch/trafic.
Trafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Vertigo juste après les infos. Quel est le panorama du jour, Pierre-Philippe?
Oh, il est vaste, il est beau.
Il y a Bowie derrière, vous entendez, hein?
Oui, il est beau comme Bowie, justement.
Ah,
oh, 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 oh,
c'est bien vu ça.
Et vous serez le héros du jour.
Mais non, pas moi. Le héros est une héroïne en l'occurrence. Elle s'appelle Karen Ichters. Elle publie un roman graphique, adaptation de Présence de la mort de Ramu. C'est publié chez Helvétique dans le cadre de cette collection qui met en image les romans de Ramu. Et c'est vachement bien. Voilà. Et puis des tas d'autres sujets, notamment l'un assez costaud sur la précarité des artistes dans les musiques actuelles en Suisse. Vous verrez, c'est pas piqué des hannetons.
Il y a vraiment le coup de gueule de Sarah Oswald, notamment. Exactement. La violoncelliste, voilà, on s'en souvient
tout
bien.
Tout par-delà.
Bonne émission.
Merci.
L'heure avec RTS Première.
La vie continuera pendant les infos et après ce sera Vertigo, 17h pile. Excellente fin d'après-midi.